Adams, hey, 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 hey,
hey, longtemps, Degas a été le Degas des années 1870 et des années 1880, un portraitiste, le peintre des danseuses. Et de son vivant même, je dirais, cette épithète de peintre des danseuses lui collait à la peau, était en quelque sorte un peu réducteur. Et c'est que très récemment qu'on s'est aperçu de l'ampleur de sa carrière et du fait qu'il y avait, je dirais, de l'extrême début, c'est-à-dire depuis les années 1800, le milieu des années 1850, jusqu'à l'extrême fin, aux alentours de 1910, une même trajectoire et en quelque sorte une même ligne mélodique. Et je pense qu'il y a peu d'artistes qui ont ainsi tenu la longueur avec une telle rigueur et sans jamais faillir.
Martine Kahn, on est en face du foyer de la danse. C'est un petit tableau de petite dimension. Hein,
un grand petit tableau.
Voilà, de 1872. Et on voit une série de danseuses qui font des exercices devant un maître de ballet.
Il est intéressant à plus d'un titre. D'abord, il est beau, évidemment. Hein. C'est un grand petit tableau, c'est un chef-d'œuvre. L'opéra n'a pas encore déménagé au Palais Garnier. Nous sommes encore à l'opéra de la rue Le Pelletier, que Degas adorait. Il n'aimait pas le Palais Garnier. Il a peint ses dernières toiles dans le foyer de la danse du Palais Garnier. Il disait que c'était trop grand, que c'était trop riche, que c'était trop doré. Il ne l'aimait pas beaucoup. Il aimait ce foyer de la rue Le Pelletier. Et il y montre là le maître de ballet, debout, devant un pupitre comme nous en fabriquons encore. Ce qui me touche, c'est la vie quotidienne dans ces tableaux, qui est une vie quotidienne que nous vivons toujours avec les mêmes accessoires. Je connais cette chaise. Je me suis assise dessus. Je connais ces pupitres. Les menuisiers de la maison les fabriquent toujours. Je connais ce cadre au fond du tableau. C'est le billet de service. Nous avons toujours les mêmes. On affiche tous les jours tout ce qui va se passer, l'heure des leçons, l'heure des distributions. Le billet de service, c'est la loi. Nul n'est censé ignorer le billet de service. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est cette jeune danseuse qui va commencer son pas. Elle est posée. Elle attend que Mérande finisse de lui donner des instructions pour pouvoir commencer.
Tendu. Haut de jambes à terre, première position. Demi-plié. Demi-rond de jambes. Demi-plié.
Une vie, une œuvre. Edgar Degas, 1834-1917. Une émission de Luc Ponette, réalisée par Jean-Claude Loiseau.
Droite et gauche en dehors, mais il faut en dehors pour pouvoir être fondu. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Degas, évidemment, c'est les expressions. C'est la danseuse qui sort de scène ou qui se prépare, qui pointe le pied pour attacher, relâcher son chausson ou mettre un petit peu de colophane, c'est-à-dire cette résine pour ne pas glisser. C'est ce que l'on voit. Et les belles reproductions que vous me montrez donnent une très belle impression de l'atmosphère qui régnait dans le foyer de la danse, où je vois ici le maître de ballet avec sa canne.
Ça c'est Louis Mérante.
Oui, je connais de nom, bien sûr.
Vous vous identifiez un peu à lui, non?
Pas tout à fait. Mais disons que la canne, moi aussi j'ai ma baguette à l'école de danse, c'est fait pour donner le rythme, c'est fait pour corriger à distance. Et à l'époque, c'était donc le maître de ballet avec sa canne.
Autour d'elle, les filles papotent là-bas, appuyées à la barre. Il y en a une qui a le pied sur la barre, mais ne travaille pas vraiment. Elle a simplement posé le pied sur la barre avec cette espèce de décontraction et de maestria qu'ont les danseurs. Une est assise, les jambes étendues devant elle. Elle a mal aussi, vous voyez le dos rond, on le voit. Et deux d'entre elles consultent ce fameux billet de service dont je vous ai parlé. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que par la porte ouverte qui donne dans un autre salon, vous avez en écho, un jupenage et une jambe droite, dans la même position que celle de cette jeune fille qui va commencer son pas. Et on a l'impression qu'à l'infini, comme un miroir, à l'infini, recommence cette scène dans la salle suivante. Et je trouve que cette espèce d'ouverture, cette espèce de perspective que le peintre nous ouvre, est absolument magnifique, et elle est magnifique pour l'esprit, autant que pour les yeux.
Thank you.
C'est devant les œuvres elles-mêmes, au musée d'Orsay, en interrogeant les peintures, les pastels, les dessins, les sculptures, que nous parcourons la longue carrière d'Edgar Degas. Près de 60 ans, durant laquelle il n'a cessé d'expérimenter des techniques diverses pour trouver des expressions novatrices. Et nous rejoignons ainsi Degas vieillissant lorsqu'il confie au marchand Ambroise Vollard « J'ai passé toute ma vie à essayer ».
Il a toujours voulu être peintre, je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il a exprimé très très tôt, qu'il a exprimé très tôt à sa famille. On a des œuvres de jeunesse et même d'extrême jeunesse dans son cas, puisque j'ai trouvé en quelque sorte des Degas avant Degas qui étaient restés dans la famille.
Henri Loirette.
Même s'il a fait des études de droit, parce que quand même, dans une famille comme la sienne, il était de bon ton de faire des études qui ne soient pas des études uniquement consacrées aux beaux-arts. Donc il a donné de façon un peu vaine, comme ça, cette satisfaction à son père de s'inscrire au cours de la faculté de droit qu'il n'a pas suivi. Très vite, il s'est tourné vers le métier de peintre.
Et alors, il fréquente l'atelier d'un peintre, Louis Lamotte.
Oui, qui était un peintre obscur, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui l'attirait en Lamotte, c'est qu'il était l'élève de Flandrin et que Flandrin lui-même était l'élève d'Ingres. C'est donc la filiation ingresque qui intéressait Degas dans cet attachement à Lamotte, un attachement qui ne durera pas d'ailleurs parce que Lamotte lui apprendra beaucoup de choses et certainement confortera, je dirais, son talent de dessinateur. Mais il s'en détachera très vite et il s'en détachera notamment lorsqu'il partira pour l'Italie, qu'il étudiera avec non pas d'autres maîtres, mais d'autres compagnons et notamment avec Gustave Moreau et qu'il retrouvera finalement en 1859-1860 un milieu très différent de celui dans lequel il avait étudié et Lamotte lui paraîtra plus idiot que jamais, comme il l'écrira à Gustave Moreau à ce moment-là.
Alors, Robert, ceci est un des très nombreux autoportraits de Degas. Et celui-ci, il est jeune, il a 21 ans quand il le peint en 1855.
Oui, celui-ci sert un peu de point de départ. C'est le moment où il est absolument encore sous l'influence d'Ingres directement. Et dans cette image, qui date du printemps 1855, il se présente comme un jeune artiste, puisqu'il tient un porte-fusain. Il est d'ailleurs accoudé à un carton à dessin. Donc c'est plus comme un dessinateur que comme un peintre qu'il apparaît à nous. Et en fait, il reprend à peu près la même attitude que Ingres avait choisie pour son autoportrait, qui est maintenant au musée Condé de Chantilly. Mais alors que Ingres était drapé un peu à l'antique et se présentait comme un artiste, ici, Degas se présente plutôt dans un costume bourgeois. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est l'utilisation de la palette très réduite qu'il a faite ici. On voit qu'il a joué essentiellement sur ce costume un peu sombre, sur un fond aussi plutôt marron, un petit peu foncé. Et c'est une des caractéristiques de la plupart de ses portraits de jeunesse. On retrouve cette austérité générale, ce rendu un métier très, très précis, très menu, très, très ingresque, en particulier dans le dessin. Et en même temps, ce regard extraordinaire dans lequel qui prouve une attention, une sorte d'interrogation sur lui-même et sur l'art. Un autoportrait toujours passionnant parce que c'est l'image que l'artiste veut donner de lui-même. Et c'est en même temps un regard plein de nostalgie, d'une certaine tristesse. Et c'est ce qu'on retrouve dans les portraits de famille de ses premières recherches.
Degas, tendre pour peu de choses, ne s'adoucissait guère à l'égard de la critique et des théories. Il disait volontiers, et sur le tard le rabâchait, que les muses jamais ne discutent entre elles. Elles travaillent tout le jour, bien séparées. Le soir venu et la tâche accomplie s'étant retrouvée, elles dansent. Elles ne parlent pas. Il était cependant grand disputeur lui-même et raisonneur terrible, particulièrement excitable par la politique et par le dessin. Il ne cédait jamais, arrivait promptement aux éclats de la voix, jetait les mots les plus durs, rompait net. Alceste, près de lui, eût fait figure d'homme faible et facile. Mais à cause du sang napolitain qui était en lui et le faisait sitôt monter au ton le plus aigu, on pouvait douter quelquefois s'il n'aimait pas d'être intraitable et connu généralement pour tel. Il avait aussi des heures charmantes. Paul Valéry, Degas, danse, dessin.
Il a 22 ans en 1856 et là c'est son fameux voyage en Italie.
Il part pour Naples d'abord, puisque partie de sa famille était napolitaine. Il faut dire que son grand-père, Hilaire Degas, avait émigré au moment de la Révolution française pour des raisons qui sont restées assez obscures. On a dit qu'il fuyait la terreur et qu'il avait des sentiments royalistes. Valéry dit sans doute plus justement qu'il agiotait sur les blés et qu'il a eu quelques difficultés avec le gouvernement, qu'il a préféré s'exiler à Naples. Et là, il a mené une véritable et importante carrière de banquier et d'agent de change, se mariera dans la bonne société napolitaine, établira ses enfants toujours dans cette bonne société napolitaine et sans construire une énorme fortune, acquérera une très solide aisance. Et Degas avait une très très grande affection pour ce grand-père, qui va donc retrouver à Naples en 1856, qu'il avait sans doute entrevu auparavant, mais qu'il ne connaissait pas véritablement. Quelqu'un dont il fera d'ailleurs le portrait, qui se trouve maintenant au musée d'Orsay. Il restera à Naples, mais très vite il montera sur Rome. À Rome, il travaillera beaucoup à la Villa Médicis, rencontrera Gustave Moreau, qui sera vraiment une amitié très très importante des années de jeunesse, et qui aura un véritable rôle de mentor, avant de voyager avec Gustave Moreau justement en Toscane, à Florence, et puis à Sienne, avant le grand retour sur Paris. Mais ça correspondra dans son cursus à ce qu'était la Villa Médicis pour un peintre qui est passé par l'école des Beaux-Arts et qui a réussi le concours de Rome. Donc il a eu une formation, je dirais, même si effectivement il n'a pas suivi académiquement ce cursus, il aurait une formation très comparable à celui de la plupart des artistes de son temps.
À Gustave Moreau, Florence, 21 septembre 1858. Mon cher Moreau, j'ai fini mon esquisse du Turgeon. Ça m'a demandé près de 3 semaines. J'ai fait presque une copie de l'Ange de Véronèse dans son ébauche et j'ai commencé le paysage du Turgeon, Jugement de Salomon, de même grandeur. Peut-être j'y mettrai les figures. J'ai fait quelques dessins. En somme, j'ai été moins courageux que j'espérais. Je ne veux pas lâcher avant un résultat cependant. Étant en l'air ici, le mieux est d'employer mon temps à étudier mon métier. Je ne pourrais rien entreprendre de moi. Il faut une grande patience dans le dur chemin où je me suis engagée. J'avais vos encouragements, comme ils me manquent. Je recommence à me désespérer un peu comme par le passé. Je me rappelle la conversation que nous avons eue à Florence sur les tristesses qui sont la part de celui qui s'occupe d'art. Il y avait moins d'exagération que je ne pensais dans ce que vous disiez. Je vous parle de tristesse à vous qui devez être dans la joie, car l'amour de vos parents doit vous remplir tout le cœur. Vous me lisez probablement comme je vous écoutais en souriant. Toujours du moi, mais que voulez-vous qu'un homme seul aussi abandonné à soi-même que je le suis dise? Il n'a que lui devant lui, ne voit que lui et ne pense qu'à lui. C'est un grand égoïste. Adieu, je vous serre affectueusement la main, tout à vous. Edgar Degas.
Ici, Anne Rocbert, on est devant le tableau qui est un tableau d'histoire de Degas, Sémiramis construisant Babylone. C'est aussi une toile de 1861, donc il est très jeune aussi quand
oui.
Il
a... C'est un ces tableaux d'histoire dans lequel il va essayer de réactualiser en quelque sorte les leçons de l'antique. Ici, c'est l'antiquité assyrienne. Le Louvre, d'ailleurs, dans ces années-là, s'est enrichi par des fouilles et des objets et sur lesquels Degas s'est absolument renseigné en faisant des dessins, reproduisant des motifs très, très précis. Et quand il décide de représenter cette scène de Sémiramis construisant Babylone, cette grande bâtisseuse des jardins de Babylone, une des cette merveille du monde, il l'installe sur une terrasse avec la ville en contrebas, une ville en construction, dans laquelle Henri Loiret a vu une évocation du Paris haussmannien, donc cette touche moderne. Sinon, c'est de l'histoire ancienne. Elle est entourée elle-même de ses suivantes et le cheval qui introduit le char sur lequel elle vient d'arriver. Et ce thème en frise, on le retrouve dans la peinture italienne, chez Piero della Francesca, par exemple, Pisanello avant, qu'il a dû voir à Arezzo, oui, l'occasion d'un de ses séjours italiens. Ce qui est absolument passionnant, c'est de voir comment il a travaillé. Il a suggéré son fond, la construction, mais les personnages eux-mêmes sont rendus avec la plus grande minutie possible. Et au cabinet des dessins du Louvre, il y a des dessins préparatoires, nus, puis habillé, et puis ces dessins sont reportés, sont mis au carreau, reportés sur la toile. Et quand on regarde cette œuvre en réflectographie infrarouge, c'est-à-dire sous un éclairage, l'infrarouge permettant de voir à travers certaines couches picturales, on retrouve ce dessin. C'est-à-dire que comme les très grands classiques, comme le faisait Ingres, vous avez un nu en dessous de ces drapés merveilleux, et qui montre la grande rigueur, le travail énorme que Degas produisait pour faire un tableau le plus convaincant possible et le plus mystérieux en même temps possible. Vous voyez, il est ici accroché à proximité de Gustave Moreau. On sait quel rôle Gustave Moreau a joué. Ils se sont rencontrés en Italie, ils étaient assez proches, Moreau lui a donné pas mal de conseils, et on retrouve cette même fantasmagorie. Ça fonctionne très bien, ces tableaux ensemble. Et puis Degas abandonnera les grands tableaux d'histoire pour se retourner uniquement vers la modernité. Mais parallèlement à Sémiramis, il faisait aussi des scènes de course.
Alors en 1859, il a 25 ans et c'est son grand retour à Paris. Et là, il s'installe dans un grand atelier rue Laval.
Oui, à ce moment-là, donc c'est, il se fixe effectivement dans ce 9e arrondissement artiste qu'il ne va plus jamais quitter. Il changera d'adresse assez régulièrement, combinant d'ailleurs à la fois logement, atelier et bientôt, à partir des années 1890, galerie pour sa collection, puisque à partir de cette date, il deviendra un collectionneur considérable et réunira un très grand nombre d'œuvres, en fait, qui feront de la collection d'Edgar Degas certainement une des collections les plus importantes de la fin du XIXe siècle.
C'est à peu près à ce moment-là aussi qu'il rencontre Manet.
Ce sont deux peintres qui sont quasiment contemporains, puisque Degas est de 1834, Manet est de 1832. Et Manet a cependant, comment dire, une avance sur Degas. Non pas tellement dans le développement de son art, mais surtout dans le fait que Manet, à partir de 1863, et beaucoup plus régulièrement à partir de 1865, est un peintre qui, exposant de salon en salon, a un succès considérable, un succès considérable, marqué aussi par un rejet très très violent de son œuvre, mais ça devient une personnalité exceptionnelle de ces années 1860 à Paris.
Degas trouvait dans le cheval de course un thème rare, qui satisfaisait aux conditions que sa nature et son époque imposaient à ses choix, ou trouver quelque chose de pur dans la réalité moderne. Or, le réalisme et le style, l'élégance et la rigueur s'accordaient dans l'être luxueusement pur de la bête de race. D'ailleurs, rien ne pouvait plus séduire un artiste aussi raffiné, aussi difficile et amateur de préparations lointaines, de sélections exquises et de fin travail de dressage, que ce chef-d'œuvre anglo-arabe. Paul Valéry.
Le défilé, l'autre titre, c'est « Chevaux de course devant les tribunes », Anne Rocbert. C'est un des premiers thèmes de la modernité.
Absolument. C'est par le cheval que Degas rentre en quelque sorte dans la modernité. Dès la fin des années 50, dans ses carnets, on voit quelques études pour des chevaux. Alors, le défilé est une œuvre absolument unique parce qu'il y a une fraîcheur absolument incroyable qui se dégage de cette œuvre, qui est une œuvre sur papier. C'est d'ailleurs du papier Canson, très bonne qualité, montrant que c'était un artiste qui avait les moyens, qui choisissait bien ses supports, qui était très bien adapté à ce qu'il veut faire. Et là, il va utiliser cette matière extrêmement fluide qui est de la peinture à l'huile diluée avec de l'essence de térébenthine. Ce qui lui permet d'avoir une touche très, très fluide, de peindre avec beaucoup de précision. Et ici, il a d'abord, par exemple, les chevaux sont dessinés très précisément au crayon, puis à la plume, et la peinture est étalée à l'intérieur de ces limites. Et ce qui saute aux yeux dans un premier temps, c'est le côté très vivant de la scène, qui est probablement plus reconstitué qu'on ne croit, puisque le jockey central, celui qui est plutôt sur la gauche, est en fait une copie inversée d'un cavalier qui est dans un des tableaux de Meissonnier, ce géant des nains dont il se moquait un petit peu, qu'il admire un petit peu tout de même, dans Napoléon III à Solferino, il y a cette figure-là, donc il a en quelque sorte repris, inversé et inséré dans son tableau. Mais ce qui ressort le plus, c'est la vivacité, le jeu des muscles des chevaux, et pour bien rendre ce mouvement, justement, sinon eux-mêmes paraissent assez... fermement installé, remarquez les ombres, qui sont des ombres tremblées, montrant, exprimant complètement ce frémissement. La composition est organisée de façon extrêmement sobre, mais remarquez la petite barrière sur la droite, de couleur blanche, qui souligne la perspective. Donc c'est vraiment, le mur est percé à la fois par cette perspective linéaire et par la perspective aérienne d'alternance de champs chauds et froids, de champs clairs et sombres, qui nous mène vers le lointain, en particulier le petit cheval dans le fond,
un cavalier, un
galop volant en quelque sorte, qui est assez irréaliste. C'est assez proche des chevaux de Géricault, par exemple, qu'il copie d'ailleurs au Louvre un petit peu avant. Et il a beaucoup admiré Géricault, de Dreux, et son propos, c'est de montrer qu'il était au moins aussi avancé que Manet dans la représentation de ces thèmes.
Gilbert Mayer.
Là, il cherche l'expression. Alors, on minaudait beaucoup. Il y en a une qui fait un petit mouvement de main et l'autre qui lui répond. Il va la demander la réponse, on a l'impression. Dans ses ballets qui étaient un peu chichiteux.
On dit qu'il avait l'obsession des bras, du port des bras.
Oui, ben, il s'intéressait beaucoup aux bras parce que ça fait partie de la danse. On commence à juger la danseuse par le haut, par les bras, puis on descend jusqu'aux pointes. On ne commence pas par regarder les pieds. C'est-à-dire c'est toute une atmosphère générale qui, évidemment, on regarde l'ensemble. Mais les bras sont extrêmement importants.
Il y avait en Degas une curieuse sensibilité pour la mimique. D'ailleurs, les danseuses et repasseuses qu'il a traitées, il les a saisies dans des attitudes professionnelles significatives, ce qui lui a permis de renouveler la vision des corps et d'analyser quantité de poses dont les peintres jamais ne s'étaient occupés avant lui. Il délaissa les belles personnes, mollement couchées, les délectables Vénus et Odalisques. Il ne chercha pas à établir sur un lit quelque obscène et souveraine Olympia, brutale comme un fait. La chair, soit d'or, soit blanche ou carminée, ne sembla point l'exciter à la peindre. Mais il s'acharna à reconstruire l'animal féminin spécialisé, esclave de la danse, ou de l'emploi, ou du trottoir. Et ses corps, plus ou moins déformés, auxquels il fait prendre des états de leur structure articulée très instable, comme de rattacher un chausson, de presser des deux poings le fer sur le linge, font songer que tout le système mécanique d'un être vivant peut grimacer comme un visage. Paul Valéry.
Bien sûr, l'art de la danse, c'était la beauté, c'est l'art de la beauté du mouvement, où l'effort physique, parce qu'il est intense, vous avez pu voir à travers la classe, ne doit pas être apparent. Sans ça, ça ne serait pas un art, c'est la différence entre le sport et la danse, où l'effort ne doit pas être apparent. Alors à partir du moment où la danseuse s'élève sur la pointe ou fait un saut, on a l'impression qu'elle devient immatérielle et qu'elle est transportée dans l'espace. Et c'est ça que la danseuse doit arriver à immatérialiser, si je puis dire.
Et ah, c'est développé, Mimi. Et ah, n'est pas la hanche, Alexandre. Et ah, ça, ça, ça.
Alors évidemment, nous avons ici maintenant l'étoile, qui est cette danseuse qui est reproduite très souvent parce que évidemment c'est une espèce de quintessence de la...
Bien sûr, c'est la première, c'est celle qui est toute seule, c'est celle qui danse toutes ses variations et puis le corps de ballet lui sert d'écrin.
C'est la danseuse en gloire.
Martine Kahn.
Il n'y en a pas beaucoup dans Degas. Il les présente plutôt au moment du travail, ouais. Au moment de la fatigue. Ou même parfois, quand elles saluent, elles ont des visages simiesques. La lumière de la rampe accentue les ombres. Et là, elle est en gloire. Il y a cette jubilation du mouvement. Il y a cette offrande aussi. Le haut du corps, complètement décalé par rapport aux jambes. La position des bras, la tête, elle a tout oublié. Elle est dans l'espèce de bonheur et dans l'espèce de griserie du mouvement. Et en même temps, toujours, comme sont les danseuses, elle est bien évidemment parfaitement maîtrisée. Et derrière, vous voyez l'ombre de l'homme en habit noir, le régisseur probablement, et les petites camarades qui sont derrière et qui font qu'on n'oublie jamais que même quand on est seul en scène, il y a tout autour de vous ce monde des coulisses, qui est un monde à la fois qui vous surveille et vous admire.
Ce qui prouve que Degas, évidemment, fréquentait les coulisses.
Bien évidemment, il a beaucoup écrit là-dessus, on le trouve dans ses lettres, il fréquentait les coulisses, il envoyait au directeur des petits mots pour recommander telle ou telle jeune femme qui voulait tel rôle ou qui voulait telle promotion. Il a beaucoup fréquenté les coulisses.
Et Daniela Levy dit que Degas les trouve toutes charmantes, les traite comme des enfants à lui, les excusant de tout ce qu'elles font et rit de tout ce qu'elles disent.
Vous savez, c'est très tentant. C'est un monde merveilleux, ce monde dans la danse. Puis vous avez l'impression de ne vieillir jamais. Parce que vous êtes toujours avec des gens jeunes. Une génération chasse l'autre. Et elle chasse la génération précédente à l'âge de 30-35 ans. Donc quand vous menez une longue vie au milieu de ces danseuses du ballet, vous avez vous aussi l'impression de rester jeune. Et cette impression de beauté, de fraîcheur et de travail, car le monde de la danse, c'est ça, et c'est toujours ça, et encore ça. C'est un monde de travail acharné, patient, quotidien. Il est bien évident que c'est très agréable.
Degas a toujours eu une vie privée très discrète. Et dans les années 1868-1869, il a fait ce tableau qui s'appelle L'intérieur et également Le viol.
C'est un tableau très important. Il l'appelait Ma scène de genre.
Henri Loirette.
C'est un tableau qui est resté tout à fait énigmatique. Ce qu'on voit, c'est une... jeune fille, demi-dévêtue, à la clarté d'une lampe, un coffret ouvert, effectivement, d'où surgisse un linge blanc, sur la table posée une paire de ciseaux, des ciseaux ouverts, et debout contre la porte, un homme en costume de jeune bourgeois, qui bloque la porte complètement. Et il y a effectivement cette espèce de mystère assez angoissant. On est dans une chambre qui est une chambre de jeune fille, comme le souligne effectivement le lit à une place, je dirais le décor même de cette chambre. On a cette jeune fille tassée, recroquevillée dans son coin, à moitié dénudée, et ce jeune bourgeois qui paraît assez hostile et arrogant et qui semble bloquer toute issue. Le tableau s'appelait C'est appelé Scène d'intérieur. On lui a donné, c'est pas Degas qui l'a fait, on lui a donné le titre du viol, induisant par là, effectivement, qu'il y avait eu ou qu'il y aurait prochainement viol ou tentative de viol. Le sujet reste inexplicable. On a essayé de le placer dans le cadre de la littérature contemporaine. On a essayé de le rattacher à une scène de la Thérèse Raquin de Zola. Non, c'est une scène de genre, effectivement, qui reste énigmatique, ambiguë et pourtant terriblement angoissante, oppressante. Et je dois dire que c'est ce qui se dégage de ce tableau de façon extrêmement, extrêmement prégnante. C'est ce climat d'angoisse, cette espèce de terreur qui règne entre ces deux êtres dans cette chambre tout à fait ordinaire et petite bourgeoise.
En 1872, Degas a 38 ans et il a une partie de sa famille qui est aux États-Unis, enfin en Amérique, et c'est son aventure américaine.
C'est l'aventure américaine. Une partie de la famille de Degas était donc napolitaine, non pas napolitaine de souche, mais installée ou mariée à Naples. Une autre partie de sa famille, celle de sa mère, était de la Nouvelle-Orléans. Et Degas va s'y rendre, effectivement, pour quelques mois, en 1872-1873. Un voyage important parce que ça sera le plus exotique de ses voyages. Et puis, justement, parce que ça conduira chez lui à refuser définitivement, je dirais, contrairement à bien d'autres peintres de sa génération et des générations futures, la tentation de l'exotisme qui va marquer si fortement, je dirais, la fin du XIXe siècle. On pense simplement à l'exemple d'un Gauguin.
Nouvelle-Orléans, 5 décembre 1872. Degas Brothers, New Orleans. Tout m'attire ici. Je regarde tout. Je vous décrirai même tout exactement à mon retour. Rien ne me plaît comme les négresses de toutes nuances, tenant dans leurs bras des petits blancs, si blancs, sur des maisons blanches à colonnes de bois cannelées, et en jardin d'oranger, et les dames en mousseline sur le devant de leurs petites maisons, et les steamboats à deux cheminées, hautes comme des cheminées d'usine, et les marchands de fruits à boutiques pleines et bondées, et le contraste des bureaux actifs et aménagés si positivement avec cette immense force animale noire, et les jolies femmes de sang pur, et les jolies carteronnes, et les négresses si bien plantées. J'entasse donc des projets qui me demanderaient 10 vies à exécuter. Je les abandonnerai dans 6 semaines, sans regret, pour regagner et ne plus quitter my home. Mon cher ami, je vous remercie 100 fois de vos lettres et de votre amitié. Cela fait tant de plaisir quand on est si loin. Degas.
Sa correspondance est magnifique parce que ça nous permet de suivre tout ce qu'il fait. Et il dit qu'il est astreint à faire des portraits de famille et des modèles pas toujours très, très disciplinés et qui attendent beaucoup de lui d'une certaine façon. Et La Dame à la Potiche est sûrement un des tableaux les plus intrigants de cette période, de cette série. Il représente, pense-t-on, une de ses cousines. Et les Américains avaient posé une question un petit peu étrange, qui montrait un chauvinisme louisianais intéressant. C'était de savoir, est-ce que l'artiste avait acheté son matériel à la Nouvelle-Orléans, ou est-ce qu'il avait apporté son matériel avec lui? C'était pas du tout impossible qu'il l'ait apporté, puisque son frère envoie une malle remplie de joujoux, envoie un piano, etc. Et donc on a essayé de répondre à la question, ce qui n'est pas facile. Et ce qu'il est sûr, par exemple, c'est qu'il a assez nettement modifié sa composition, et il a probablement repris son tableau. Le Moine le dit d'ailleurs, son historiographe dit qu'il l'aurait repris en 95. Presque tous ses tableaux de la Nouvelle-Orléans sont signés, sont datés, et comme s'il avait voulu en quelque sorte s'imposer, se faire reconnaître, ses frères, pensait-il, avaient réussi là-bas, donc c'était peut-être une façon de se présenter comme un artiste. Et d'ailleurs, ce tableau est signé 2 fois. Sous infrarouge, on retrouve la date qui est la même, mais il l'a resigné au moment où il l'a, et redaté au moment où il l'a retravaillé.
Il parlait volontiers d'art savant. Il disait qu'un tableau est le résultat d'une série d'opérations. Cependant qu'au regard naïf, les œuvres semblent naître de l'heureuse rencontre d'un sujet et d'un talent, un artiste de cette espèce profonde plus profond peut-être qu'il n'est sage de l'être, diffère la jouissance, crée la difficulté, craint les plus courts chemins. Paul Valéry.
Dans celui-ci, par exemple, ce que j'ai tendance à préférer, c'est vraiment le personnage féminin, bien sûr, et tout le jeu des tables. Voilà. Le personnage qui est coupé à droite, ce qui m'embête, c'est que cette coupe, je la trouve un peu voulue.
Gilles Saxic.
Il y a par endroit, tout à coup, une petite S qui n'a pas vu. Ce petit noir qui cerne le vert de ce côté-là n'est pas du tout à l'échelle de celui-ci et pas du tout à l'échelle de la masse grise du personnage féminin. Oui, ce sont vraiment des choses de peintre. Voilà. Et ça, je le vois tout de suite. Donc je me dis, ah tiens, là, il tombe un peu. Bon, il s'en remet, et après il fait des choses absolument merveilleuses. Mais il y a cette histoire, il arrive à une époque où photographie et peinture sont vraiment au coude à coude, et pas au bon coude à coude. D'ailleurs, il fait de la photo, vous le savez bien, et il va se passer, à partir de Degas, pour moi, comme peintre, il va se passer, il prépare deux peintures modernes, celle de Bonnard d'un côté, celle de Picasso de l'autre. Mais alors, pour moi, c'est absolument évident. Sans Degas, pas de période bleue, pas du tout. Voilà. Mais quelquefois, son talent, comme chez Manet, quelquefois son talent, il pêche par talent. Voilà, il pêche par excès de talent.
Anne Rockbert, l'absinthe représente un café dans une disposition très étrange.
D'ailleurs, le titre original, enfin le titre voulu par Degas, puisque c'est le titre qu'il avait proposé pour l'exposition impressionniste auquel le tableau ne participera pas, celle de 76, c'était dans un café. Donc le lieu importe vraiment beaucoup pour lui. Et effectivement, il installe ses personnages au-delà de tables rendues par des triangles un petit peu grisâtres. Et surtout, il installe deux pieds un peu étranges au milieu d'un vide. Et le vide de la première partie de la composition, de la partie basse, est très très important car il évoque plastiquement le vide mental qu'on ressent dans l'air abruti des personnages qui sont en fait représentés. La figure centrale, c'est Hélène André, qui n'était pas du tout une alcoolique invétérée, qui était une comédienne, qui a posé pour plusieurs artistes. Et Degas lui a demandé de tenir ce rôle à côté de Marcelin Desboutins, qui était un de ses amis, le fameux graveur Desboutins, qui a un peu entraîné tout le monde, qui était un des piliers du café plutôt intellectuel, c'est-à-dire le café, soit le café Gerbois, puis le café de la Nouvelle-Athènes, étaient des endroits où les artistes se retrouvaient et discutaient d'art tout à fait contemporain. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Degas installe dans un rôle majeur, enfin lui donnant une place importante, ce vert d'absinthe, cette couleur assez unique, changeante, enfin en train de changer. Et Hélène André était un peu furieuse qu'on lui représentait sous cette forme-là, car elle disait c'est le monde inversé, moi devant l'absinthe et ça aurait été mieux des boutades.
Les caquets de la couchée. Après la chute, toujours les femmes font des phrases du boniment. Nous racontons leurs états d'âme, cela tout en se rhabillant. J'en connais, c'est le coup classique qui vous disent en pleurnichant. Chérie, je me sens mélancolique, oh, tu vas me mépriser maintenant. Mais non, mon petit enfant. Quand un homme a obtenu d'une femme ce que d'elle il a voulu, n'oubliez donc pas, mesdames, qu'il se rit de vos discours et qui sont les mêmes toujours. S'il pouvait en cinq secs vous clore. S'il pouvait en cinq secs vous clore le bec.
Il adorait le café-concert, il s'y rendait extrêmement souvent, notamment aux Champs-Élysées, et il va sur un support soit de monotype, soit au pastel, croquer comme ça un certain nombre de chanteuses, des chanteuses de café-concert, des chanteuses de beuglant, chantons de ces chansons absurdes, comme par exemple la chanson du chien où une chanteuse imitait le petit chien et jappait plus qu'elle ne chantait. C'était quelque chose qui frappait extrêmement Degas.
Degas a aussi peint des scènes de maison close.
Oui. Il allait au bordel, il allait au bordel très, très, très volontiers. Une des choses qui m'avait frappé lorsque je travaillais sur ma biographie, j'avais montré un jour un graphologue, je ne sais pas ce que vaut ce genre d'analyse, mais enfin, l'anecdote est amusante. J'avais montré une lettre de Degas en cachant la signature, et cette personne qui a un grand renom dans ce domaine m'avait dit une seule chose, c'est un type qui va au bordel. C'est ce qui ressortait en quelque sorte de l'écriture de Degas et ça m'avait évidemment frappé. Degas était un type qui allait au bordel. Il aimait ça. Et Degas a beaucoup peint ses maisons closes, peint la fête de la patronne, par exemple, où on voit la vénérable Macrel entourée de ses filles un tout petit peu épaisses, en tenue plus que légère, enfin presque complètement dénudée, et qui lui offre le touchant bouquet d'anniversaire. C'est des thèmes sur lesquels il reviendra extrêmement souvent, et je dirais avec une tendresse toute particulière. C'est quelque chose qui frappera terriblement Picasso. La fête de la patronne, par exemple, ce magnifique monotype rehaussé de pastel, figurera dans la collection de Picasso, et on sait que Picasso, à la fin de sa vie, fera ses admirables variations gravées sur le thème de Monsieur Degas au bordel.
Il avait beau être né en plein romantisme, avoir dû, vers sa maturité, se mêler au mouvement naturaliste, fréquenter Duranty, Zola, Goncourt, Duret, exposé avec les premiers impressionnistes, il n'en demeurait pas moins un de ces connaisseurs délicieux, obstinément, voluptueusement étroits, impitoyables aux nouveautés qui ne sont que neuves, nourris de racines et d'anciennes musiques, citateurs et classiques jusqu'à la férocité, à l'extravagance, aux éclats, qui nous sont malheureusement une espèce disparue. Paul Valéry.
L'année 1874, Degas a 40 ans, c'est une année importante parce qu'il fonde avec Monet, Pissarro, Sisley et Morisot la société anonyme coopérative à capital variable des artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, etc. En fait, c'est la première exposition des impressionnistes.
Oui, c'est une vieille idée, en fait. C'est une idée qui remonte aux années 1860. Ce qu'il faut voir, si vous voulez, on parle de cette histoire de l'impressionnisme en essayant de fonder une sorte de mouvement cohérent. Ce qu'il faut voir, ce qui conduit ces artistes, qui sont très disparates, c'est la volonté d'exposer dans de bonnes conditions. Et que dès les années 1860, et en particulier à partir de 1867, il y a eu des tentatives nombreuses d'exposer seuls, en dehors du salon, puisque le salon, pour les jeunes artistes, n'offrait pas des conditions satisfaisantes d'exposition. Ces tentatives vont se multiplier, vont finalement aboutir effectivement, grâce à Degas, grâce au concours d'autres artistes considérés aujourd'hui comme les impressionnistes, Monet, Renoir, Pissarro, à cette première exposition de 1874, qui sera suivie d'autres jusqu'en 1886, date de la dernière exposition. Mais Degas, dans ces expositions qu'il ne voulait pas appeler impressionniste, qu'il voulait appeler réaliste, dans ce salon réaliste, va jouer un rôle très actif et prépondérant.
Mais il ne sera jamais impressionniste.
Mais ça dépend ce qu'on entend impressionniste. Si vous voulez, maintenant, impressionniste, c'est lié effectivement à Monet et au paysage. Je dirais une certaine peinture, effectivement, à laquelle celle de Degas ne correspond pas du tout. En revanche, c'est véritablement un de ces artistes de la nouvelle peinture, comme peut l'être Manet, qui n'a pas exposé à ces expositions impressionnistes, et qui trouve, je dirais, dans la modernité, dans les sujets nouveaux qu'offre le Paris contemporain, dans la façon d'éclairer les choses antiques au feu de la vie contemporaine, certainement matière à peindre et matière à réflexion. Thank you.
Degas aimait à parler peinture et ne souffrait guère qu'on en parlât. Il m'amusait de le mettre facilement en fureur. Je lui disais « Mais enfin, qu'est-ce donc que vous entendez par le dessin ?» Il répondait par son célèbre axiome « Le dessin n'est pas la forme, il est la manière de voir la forme. » Ici éclatait l'orage. Je murmurais « Comprends pas », avec un ton qui suggérait assez que la formule me paraissait vaine et insignifiante. Aussitôt, il criait. Je m'entendais hurler que je n'y entendais rien, que je me mêlais de choses qui ne me regardaient pas. Nous avions raison tous les deux. La formule signifie ce que l'on veut, et il était vrai que je n'avais aucun titre à la discuter. Paul Valéry.
Grand admirateur de Ingres, on sait que Degas avait un amour constant pour le dessin. Pourquoi s'est-il tourné vers la sculpture, Anne Pinjot ?
Justement par ce goût, cette passion de la précision. Il s'est rendu compte que pour arriver à comprendre une forme, il fallait qu'elle soit en trois dimensions. C'est lui qui l'a dit. Hein. Il l'a raconté à Thiébaut Cisson. Et Thiébaut Cisson, longtemps après, l'a écrit sans peut-être de souvenirs, peut-être avait-il pris des notes. On espère qu'il a pris des notes parce que c'est très précis, ces citations. Mais il explique que la sculpture, ça n'est qu'un moyen pour sa peinture. Ce n'est pas une fin en soi. Nous, nous considérons que sa sculpture est une fin en soi. Et son ami Marie Cassatt pensait même qu'il était meilleur sculpteur que peintre. Mais pour lui, c'est vraiment obtenir plus de précision.
Quand est-ce qu'il a commencé à modeler ou à sculpter ?
Alors, il raconte, toujours à Thiébaut Cisson, cette interview très importante, qu'il a commencé très tôt, quand il n'arrivait pas à s'en tirer avec un cheval. Il n'y a pas de raison que moi je ne sache pas faire un cheval comme le fait Meissonnier. Meissonnier qui le méprisait assez, mais quand même qu'il admirait dans sa façon de modeler les chevaux. Alors il a commencé par ça, donc déjà dans les années 60. Vous voyez. Donc lui, il a agi comme ça d'une façon tout à fait inventive, puisqu'il mélangeait tout ce qu'il trouvait sur sa table de travail. Donc il torturait ses armatures lui-même. Quelques-unes ont été des armatures achetées toutes faites, mais très peu. Et il mélangeait à la plastiline et à la cire des bouchons de liège, parce que ça coûtait moins cher, comme ça il pourrait sa cire. Le cheval que nous avons, la cire du cheval, qui est passée à la radiographie au laboratoire de recherche des musées de France, on a vu que la tête du cheval, c'est un bouchon de sa bouteille de vin. Comme ça, il gagne un petit peu, il économise sur la cire. Et puis, aux États-Unis, ils ont trouvé aussi un bouchon en métal d'un sucrier. Enfin, il y a des tas de choses intéressantes dans les cires de Degas. Donc, il tortille son armature, il monte comme il peut, vraiment comme... Parce que c'est un inventeur, Degas, un inventeur du monotype. Il s'est passionné pour la photographie des est inventée, et la sculpture, il invente, il recherche toujours. Et donc, il a écrasé ces boulettes de cire qu'on a trouvées après sa mort dans un état effrayant. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de sculptures qu'il y en a maintenant. Alors, les morceaux qui peut-être nous auraient beaucoup intéressés sont passés à la poubelle.
Alors, les thèmes de ces sculptures ?
Donc les thèmes, les chevaux, puisqu'il essaie de comprendre le cheval, et puis évidemment les danseuses, et puis les femmes à la toilette, femmes surprises, la femme qui bâille, l'espèce d'instantané qui nous rapproche presque de la photographie, et puis la masseuse, enfin c'est la jeune femme qui se lave le pied. Alors, c'est aussi un adepte de l'assemblage, parce que là, l'espèce de bassine dans laquelle la femme lave son pied, c'était un encrier, dont la cire originale, c'est un encrier de vert foncé, et donc c'est très beau de voir la couleur de la cire qui joue sur cet encrier. Donc il assemble. Le tub, c'est un tub de poupée. Et puis il y avait des vrais cheveux, il y avait soi-disant une petite éponge. Moi j'ai cherché la petite éponge, mais j'ai jamais trouvé à Washington. Donc, assemblant des matières différentes, là encore, un mouvement tout à fait d'avant-garde.
Alors on va s'approcher des sculptures, parce qu'ici, au musée d'Orsay, on a un exemplaire en bronze de l'ensemble.
Alors, malheur à nous, malheur à nous. Nous devions avoir le numéro 1 de l'édition qui a été faite après la mort de Degas. Vous savez, donc, il ne voulait pas de bronze. Vous pensez bien que tous les marchands qui tournaient autour de lui ne rêvaient que d'une chose, c'est d'obtenir que ces sujets, qui en plus sont très grand public, parce que des chevaux, des danseuses, des femmes qui se nettoient, c'est son terme, ça pouvait être d'une vente merveilleuse. Et je ne sais pas si Martin Kahn nous a raconté l'anecdote que raconte Vollard, qu'il a peut-être arrangé, mais Vollard le supporte. supplie de, d'accepter qu'on moule ces statuettes. Et alors un jour, il est content, il dit « Écoutez, ça, c'est pas mal, et au fond, venez demain avec le mouleur, je suis prêt. » Et alors Volard vient le lendemain avec le mouleur, et il voit la merveilleuse danseuse redevenue à l'état de boule de cire. Et il lui dit « Volard, vous m'auriez donné un chapeau plein de diamants, vous ne m'auriez pas donné le plaisir que j'ai eu à recommencer. » Parce que c'est quelqu'un de toujours insatisfait, qui veut toujours plus. Et il ne veut pas du bronze, cette matière pour l'éternité. Et alors fallait-il faire cette édition après sa mort ? C'est quand même un vrai problème.
Hein. Ce qu'on a trouvé après sa mort.
Alors après sa mort, il n'a exposé que la petite danseuse de 14 ans. Donc après sa mort, il a quand même accepté le moulage en plâtre de 3 statuettes. Et ces plâtres étaient dans sa salle à manger. Donc c'est un espace semi-public. Hein. Donc il y avait déjà un premier pas vers l'éternité. Mais il s'est arrêté là.
Vous voyez, elle a un petit peu le ventre en avant. Elle se tient bon, le cou un peu en avant. Bon, le genou n'est pas très fin. Parce que quand on regarde les danseuses aujourd'hui, on s'aperçoit de la qualité du placement du muscle. Un muscle, une danseuse avec un bon travail a des muscles bien placés. Le bon travail affine, gomme les fesses, les cuisses. Tandis qu'à l'époque, il y avait des mollets, des cuisses assez fortes, et c'était une façon de travailler. Tandis que vous voyez...
Alors, la petite danseuse de 14 ans, la voici, la célèbre sculpture de Degas, commence sa carrière par une absence. En effet, Degas, à la 5e exposition des impressionnistes en 1880, expose une vitrine vide, Martine Kahan.
Elle se fait déjà attendre. C'est quelqu'un de la scène, c'est pas quelqu'un de la ville. Et l'énigme se renforce au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que vous travaillez sur cette jeune fille qui est irritante, qui est fascinante, vous en savez de moins en moins, en fait, sur elle. Parce qu'il y a une double fascination, il y a celle que cette œuvre exerce sur vous, et il y a celle que cette petite fille a exercée sur Degas lui-même.
Et c'est en faisant la réflexion du tutu en 1997, c'est ça qui a un peu éveillé votre curiosité.
J'ai commencé par les jupons, en fait. J'ai commencé par m'intéresser à quelque chose de très pratique, qu'on connaît bien dans la maison, à l'opéra. Il se passe qu'on avait fait une exposition sur le tutu, peu de temps auparavant, et j'ai vraiment commencé par m'intéresser aux jupons. Alors bien sûr, je l'avais regardé en général, en détail, en particulier, mais je crois que c'est seulement quand Anne Pinjot l'a sortie de la vitrine, quand on l'a emmenée, déjà la voir se déplacer était quelque chose de très émouvant, et puis la voir en réserve devant soi, sur une table, la toucher, et c'est là que brusquement j'ai compris que c'était quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu me rapprocher de la personne elle-même.
Le modèle,
voilà. Et qui était-elle, et pourquoi, et comment ça s'était fait. Et c'est là aussi où je me suis aperçue qu'il restait beaucoup de questions en suspens, beaucoup de voies ouvertes, des choses très approximatives. Et en fait, ça m'énervait d'autant plus que je la rencontrais tous les jours, parce que moi, je la rencontrais dans les coulisses. Car elle est très actuelle et très moderne. Et c'est encore une des choses fascinantes. Les femmes de Degas que vous voyez sur ces tableaux, vous pouvez les rencontrer dans le métro, dans la rue, dans des blanchisseries, s'il en existe encore. Mais en général, les danseuses qui ont été peintes ou sculptées au siècle dernier, vous n'en rencontrez plus. Parce que l'esthétisme du corps a beaucoup changé et que les danseuses d'aujourd'hui n'ont plus la forme même de celle du début du siècle. Et Marie, la petite Marie, on la rencontre. On la rencontre à l'école de danse, chez Claude Bessy, on la rencontre dans les coulisses, on la rencontre sur scène parce qu'elle est profondément actuelle.
Parce que le modèle de la petite danseuse de 14 ans, Martine Kahan, c'est Marie.
C'est Marie. Pour nous, ça a été Marie. Et à l'opéra, Marie est devenue quelqu'un de très connu. On me demandait les nouvelles de Marie. Alors tu as trouvé, tu n'as pas trouvé.
Et alors, en deux mots, quelle est l'histoire de Marie ?
L'histoire de Marie, c'est l'histoire d'une famille d'origine belge qui vient s'installer à Paris dans les années 1860-1870, qui s'installe dans les quartiers les plus pauvres de Paris, qui sont ceux qui sont maintenant autour du 9e arrondissement. Et là naissent des enfants, est née Marie, qui est née place Bréda, ce qui est déjà très lourd et ce qui est déjà toute une histoire. Parce que la place Bréda, aujourd'hui place Gustave Toudouze, dans ce qu'on appelle le bon 9e, est à l'époque un des quartiers de prostitution les plus durs que Zola a beaucoup raconté. Et Marine est là avec deux sœurs, une sœur aînée, Antoinette, une petite sœur, Charlotte, et sont des enfants qui vraisemblablement naissent dans la rue et vivent dans la rue. Et puis leur mère va obtenir pour ces trois petites filles une sorte d'engagement de groupe à l'opéra. On va prendre les trois à la fois. C'est quelque chose qu'on a rencontré très longtemps dans la maison. On a encore des gens qui, de père en fils, sont tapissiers de la salle ou sont régisseurs de la scène, ou même des dynasties de danseuses comme celle-là. Donc ces petites filles vont, pour l'aînée, qui n'a plus l'âge de rentrer à l'école de danse, être figurantes. À l'époque, on appelle ça marcheuse. Et marcheuse, ça vous a déjà une connotation dans le langage. Ça vous rapproche de la rue, ça vous rapproche du trottoir. Ouais. Et puis les deux petites, plus jeunes, vont, elles, rentrer à l'école de danse. Et en fait, elles vont gagner le pain de la famille.
C'est là qu'elle passe les examens devant les maires, les spectateurs et éventuellement même Degas et à Lévis. Qui...
Si la chronologie ne ment pas, et c'est la seule chose qui ne mente pas, dans la même salle de l'opéra au Palais Garnier, un jour se sont assis Degas, Ludovic à Lévis, qui a été le chantre des danseuses, le directeur et les danseuses de l'opéra, et sur scène, il y avait la petite Marie qui passait l'examen. Et puis elle est rentrée dans le corps de ballet, comme quadrille, c'est le niveau le plus bas, c'est celui par lequel on commence, on apprend son métier. Et puis alors qu'elle rentrait dans le corps de ballet comme quadrille et que notre histoire semble arriver à une sorte de floraison, on voyait effectivement à l'exposition cette sculpture. On s'attardait devant cette sculpture parce que si elle nous fascine maintenant, elle fascinait bien autrement à l'époque.
Et il faut dire que Degas, après cette absence, après avoir... exposé une vitrine vide, l'année suivante, il l'a exposé à l'exposition des impressionnistes, il a exposé sa petite danseuse, qui est une cire.
Oui, mais encore en retard. Elle n'était pas là, le jour de l'ouverture. Elle est arrivée là aussi, comme une étoile, sur le plateau, quelques jours après. Et là, c'est là où les commentaires sont extrêmement durs, on les reçoit en pleine figure, elle les reçoit en pleine figure, et elle a ce visage... dressée, elle a ce visage qui attend quelque chose, et dans ce visage d'enfant, on a envoyé les mots de prostitution, de bestialité, de fleurs du trottoir, de petite nana. On a envoyé tous ces mots-là en déclarant que son faciès, à lui seul, parlait pour elle, et qu'elle était l'image de la rue, du trottoir.
Des femmes qui tiennent leurs pieds.
Oui, ça c'est très bien.
C'est quand même une belle série, oui.
Oui, oui, c'est une danseuse.
Oui, c'est une danseuse. Et là, c'est un peu la décomposition du mouvement. D'ailleurs, on avait exposé certains Degas dans une salle qu'on avait fait sur la naissance du cinéma, qui a disparu, hein, qui était à l'origine à Orsay. Et moi, je pense qu'on a toujours considéré que celle-là était la plus achevée et donc était la dernière de la série. Et moi, je crois le contraire. Je crois qu'il part du plus achevé, du plus proche de la réalité et que peu à peu, il va s'en éloigner pour arriver à cette forme où ce n'est plus la représentation d'un corps, mais c'est la représentation de lignes de force qui vont faire ce mouvement très pénible.
Alors, il faut dire, Anne Pajot, que c'est une danseuse qui est en train de... Regardez, se toucher.
Alors, elle fait une pose très compliquée parce qu'elle prend son pied droit, elle le plie en arrière et elle regarde l'intérieur de son pied. Donc, ça oblige à une torsion très difficile. Et le modèle nous a raconté justement cette torsion très difficile, cette pose. Vous vous rendez compte, arrive à tenir cette pose. Et en plus, comme Degas perdait un peu la vue, il avait, disait-elle, un énorme compas pour prendre des dimensions. Elle avait extrêmement peur des pointes de ce compas qui risquaient de la piquer. Mais... Là, c'est vraiment, il faut prendre le temps de regarder et se développer ce mouvement dans l'espace. Et il arrive à des choses inachevées comme Rodin l'a fait, parce que peu à peu, Rodin s'est rendu compte qu'en en mettant moins, on en disait plus, qu'on demandait au spectateur sa collaboration pour que de lui-même, il ajoute la partie qui manque, que l'imagination était sollicitée et était quand même la meilleure des compagnes. Enfin, de lui-même, il va arriver à cette, voyez, cette espèce de progression. Donc, on inverse le chemin. Et je pense que la plus achevée, la plus terminée, la plus fignolée, est peut-être au début du chemin et non pas à la fin.
L'univers de la danse et l'univers de la musique ont des relations intimes senties de tous, mais dont personne n'a saisi jusqu'ici le mécanisme, ni montré la nécessité. Rien n'est plus mystérieux que cette perception si simple à énoncer, l'égalité de durée ou d'intervalle de temps. Comment pouvons-nous estimer que des bruits se succèdent à intervalles égaux, frappés des coups également distants? Et que signifie même cette égalité affirmée par notre sens? Or, la danse engendre toute une plastique. Le plaisir de danser dégage autour de soi le plaisir de voir danser. Paul Valéry.
Ici, à Anne Rockbert, c'est l'orchestre de l'opéra. C'est un des premiers portraits de groupe que peint Degas. Et on voit le portrait d'un de ses amis qui est le basson, qui est Désiré Dio.
Degas a cette idée absolument merveilleuse de l'installer dans la fosse d'orchestre, c'est-à-dire avec une composition d'une audace absolument incroyable, un peu en contrebas, et au milieu de registres différents, avec un premier plan à peine suggéré, et puis dans le lointain, on aperçoit la scène proprement dite. Et c'est le premier tableau qui va vraiment évoquer la danse, le monde du spectacle, qui va être un de ses sujets favoris par la suite. Et là, il l'évoque par un jeu de jambes absolument incroyable, des tutus ébouriffants et très très colorés, donc un monde très lumineux par rapport à un monde plus austère du premier plan.
Et en même temps, ces danseuses, on ne voit pas la tête de ces
danseuses.
Non,
et d'ailleurs, il avait même représenté les pieds, mais il l'a agrandi. Sur les radios, on voit assez bien qu'il a prolonger en quelque sorte la fosse d'orchestre, et donc on ne voit vraiment qu'un fragment. C'est vraiment l'art du fragment, mais tellement évocateur, comme chez les artistes japonais, une partie seulement du motif suffit et permet d'évoquer l'ensemble de tout ce qu'il y a à l'extérieur.
Voilà, cet arabesque-là est absolument impossible aujourd'hui. La jambe est en dedans, les bras sont raccourcis, il n'y a pas de continuité dans la ligne, vous voyez, cette grande arabesque. Bon, cette arabesque, quand on voit aujourd'hui les arabesques que vous avez pu observer pendant la leçon, n'ont rien à voir avec cette jambe qui est en dedans, etc., et qui n'est pas du tout placée, comme on le fait aujourd'hui.
Il y a plusieurs compositions assez proches de celle-là, pas du tout pour le fond, mais pour la silhouette de la danseuse, de la ballerine, l'étoile. Et en fait, Degas a pris comme point de départ un monotype. Le monotype, c'est un procédé qu'il a presque inventé, enfin c'est plutôt le pic qu'il a inventé, et il va l'utiliser assez couramment. L'artiste Degas prend par exemple une plaque de cuivre ou de verre ou de quelque chose, une matière très 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 lisse, et il va peindre dessus avec une matière très très fluide, et ensuite il va imprimer comme une estampe. Et puis il imprimera plusieurs états. Ce qui fait qu'il aura la même forme, le même point de départ, avec de moins en moins d'ancrage. Au début, il peut même faire des contre-ancrages. Et donc, vous avez de temps en temps la même forme, mais qui va être utilisée de façon complètement différente. Il va pouvoir décliner sa composition. Et ici, par exemple, il intègre un décor un peu fantasmagorique. On aperçoit la coulisse dans le lointain. Mais c'est sur papier.
C'est sur papier, et ensuite c'est du pastel.
Et c'est ça, il rehausse au pastel, il rehausse à la gouache d'ailleurs probablement pour la jambe, ou alors une sorte de peinture à l'huile qu'il dilue. Et c'est un point de départ, et le fait de décliner, de s'interroger, de continuer de creuser sur le même thème est quelque chose qu'il fera pendant toute sa vie. Pensez par exemple au dessin très tardif pour lequel il calque et il recalque, et c'est pour ça qu'il choisit des supports transparent.
Thank you.
Alors, en 1884, Degas a 50 ans, et déjà, il est... Il fait des réflexions moroses sur son âge, sur la mort, sur la solitude. Il faut dire qu'il est resté célibataire et très solitaire.
Il est resté célibataire et volontiers seul, même s'il a caressé jusqu'à une date assez tardive le désir de se marier, d'avoir des enfants. C'est quelque chose qu'il évoque et qu'il abandonne aussitôt. Il répondait quand on lui demandait pourquoi il ne s'était pas marié, parce que, disait-il, ça me troublerait de voir ma femme dire tous les jours « c'est très joli ce que tu as fait là ». Donc il préférait effectivement cette solitude qui deviendra assez rogue, je dirais, assez hostile à partir des années 1890, mais solitude délibérée et farouche.
Je viens vous demander pardon d'une chose qui revient souvent dans votre conversation et plus souvent dans votre pensée. C'est d'avoir été au cours de nos longs rapports d'art ou d'avoir semblé être dur avec vous. Je l'étais singulièrement pour moi-même, vous devez bien vous le rappeler puisque vous avez été amené à me le reprocher et à vous étonner de ce que j'avais si peu de confiance en moi. J'étais ou je semblais dur avec tout le monde par une sorte d'entraînement à la brutalité qui me venait de mon doute et de ma mauvaise humeur. Je me sentais si mal fait, si mal outillé, si mou, pendant qu'il me semblait que mes calculs d'art étaient si justes. Je boudais contre tout le monde et contre moi. Je vous demande bien pardon si, sous le prétexte de ce damné art, j'ai blessé votre très noble et très intelligent esprit, peut-être même votre cœur. Lettre de Degas à De Valerne, 1890.
Il y a beaucoup de gens qui meurent autour de lui, mais il se fait de nouvelles amitiés néanmoins. Entre autres, Miss Cassatt, dont elle a fait un portrait.
Il a fait plusieurs portraits de Miss Cassatt.
Henri Loiret.
Mary Cassatt, c'était cette artiste américaine, donc d'une famille fortunée, qui était venue étudier, travailler en France. On ne sait pas trop ce que pensait Degas de l'art de Mary Cassatt. Je ne suis pas sûr qu'il l'appréciait énormément. Mais enfin, c'est quelqu'un qu'il aimait bien. Il aimait bien cette jeune femme. Il appréciait son rôle de go-between, en quelque sorte, entre la France et les États-Unis. Il l'a représenté plusieurs fois.
Donc voici un pastel oui. Chez la modiste. Je crois qu'il date de 1882.
Oui. Ça, il a beaucoup aimé effectivement ce sujet des femmes devant le miroir essayant des chapeaux. Et on a le témoignage justement de Mary Cassatt qui l'accompagnait dans ses visites chez les modistes, ou de Geneviève Strauss, la fille de Fromental à Lévis, et la femme de Georges Bizet, qui a aussi témoigné de ce goût de Degas pour les scènes de modiste. Et quand Madame Strauss lui demandait ce qu'il aimait justement dans ces scènes de modiste, il disait les doigts rouges de la petite fille qui tient les épingles. Et en fait, on trouve effectivement cette attirance pour ces figures féminines un tout petit peu ravalées, je dirais, les obscures, les modistes, les repasseuses, qui ont fasciné Degas.
Au moment où Edmond Goncourt visite l'atelier de Degas, il rapporte dans son journal que cet artiste étrange s'est enamouré du moderne et qu'il a su bien rendre cette touche justement absolument moderne. Et dans ces repasseuses, Degas insiste sur l'opposition entre deux gestes, une repasseuse qui s'étire en train de bâiller, tenant soit un litron, soit peut-être de l'eau pour son repassage, et l'autre qui au contraire a un geste beaucoup plus replié, un geste concentré, qui est un geste professionnel. Et Degas insiste toujours justement sur le geste exact, la composition organisée sur une diagonale, débouche justement, insiste sur ce point-là. Et là, on se rend compte que Degas a voulu insister sur le côté un peu tactile de la matière. La toile est une toile assez épaisse, grumeleuse, qui accroche la matière picturale et qui lui permet des effets assez très assez différent entre le textile de la chemise en train d'être passé et au contraire les vêtements, par exemple, des blanchisseuses ou les murs du fond. Et on est assez étonné par la fraîcheur de ces couleurs presque oui. pastel. Oui. Très souvent, ces blanchisseuses ont des tenues un petit peu plus, soit plus vives, soit plus assombries, en fait, plus naturalistes. Là, c'est du naturalisme un peu drôle et gai.
C'est des tons un peu acidulés.
Un peu acidulés, oui, et pastel, dans ces roses et bleus, qui annoncent bien évidemment la période bleue, par exemple, de Picasso, qui aura une immense admiration pour Degas et qui reprendra des gestes un petit peu comparables.
Antoine Terrasse. Comment un peintre formé à la peinture classique et grand amateur du dessin a-t-il pu s'intéresser à la photographie ?
Parce que la photographie est un autre moyen de voir. Et Degas était l'un des hommes les plus préoccupés qui ait jamais existé parmi les peintres, préoccupé par la vision, par l'œil, par le regard. Mais là, il y a eu deux choses dans la photographie. Il y avait déjà, au moment où Degas a commencé à photographier, il y avait déjà la possibilité très récente de l'instantané. Or, Degas n'était pas du tout un photographe de l'instantané. Il était un photographe de la pose. Une pose qu'il organisait lui-même. Chacun sait qu'il y avait au moins entre 5 et 9 lampes à pétrole qu'il faisait apporter ses victimes. Et puis, il disposait d'eux, leur imposait le temps qu'il souhaitait, les faisait poser plusieurs fois, les remettait en place. Enfin, c'était toute une mise en scène, on peut dire, pour arriver à quelque chose qui, selon lui, devait être une chose nouvelle et surtout attraper précisément, et encore une fois, les ombres et les lumières. Mettre le visage en lumière et montrer le mystère de l'ombre autour.
Quels étaient ses sujets de prédilection ?
En photographie, essentiellement le visage. Essentiellement. Il voulait faire d'ailleurs des portraits comme les peintres anciens, justement avec les lumières, les ombres, et certains de ces portraits ont la beauté, incontestablement, de noir et blanc, de Rembrandt, il y a des choses extraordinaires. D'abord, dans ses propres portraits. Et ces portraits, c'était ceux d'abord de sa famille, et puis de ses amis, d'intimes. Et dans ce domaine, parmi les intimes, il y avait surtout tous les Halévy. Bon, enfin, c'est essentiellement des portraits, et il y a des portraits de lui, on le voit notamment avec Zoé, c'est à la fois une nature morte et un portrait, parce qu'il y a une carafe, là, au premier plan, et c'est bâti à la fois comme quelqu'un qui regarde une nature morte, c'est le regard de Degas, bien entendu, et derrière, il y a sa fidèle gouvernante, qui était Zoé. C'est une photographie magnifique.
C'est une photo posée, ça.
Toujours posée. Jamais d'instantané, jamais, jamais. C'est fou. Et lui-même, il organisait, c'était une organisation. Et d'aucuns disaient presque une organisation militaire. Oui, parce qu'il fallait être aux ordres, il fallait obéir, il fallait être à l'heure, Bon.
Degas, homme de goût, retardait sur plus d'un de son âge. Tandis qu'il devançait, d'autre part, par la hardiesse vraie et la précision de son esprit, bien des artistes ses contemporains. Il a compris, l'un des premiers, ce que la photographie pouvait enseigner au peintre, et ce que le peintre devait se garder de lui emprunter. Paul Valéry.
Et ici aussi, c'est une très belle photo, photographiée avec...
C'est une photographie très célèbre, d'ailleurs. C'était évidemment Mallarmé et Renoir, chez Berthe Morisot. Et... Elle avait beaucoup frappé Valérie, qui, vous le savez parfaitement, a été émerveillée des photographies de Degas, et justement a écrit un petit texte sur cette photographie, au bas de cette photographie, qui révèle comment elle a été faite avec les lampes à pétrole, les heures de pose, etc.
Et en effet, on voit l'objectif de l'appareil.
Le fantôme, ce qu'on appelle le fantôme, qui est ces deux gars, c'est le photographe, enveloppé dans sa robe noire de photographe.
Dans le miroir qui se trouve derrière Renoir.
On n'a pas identifié encore qui se trouve dans le miroir.
Degas, toute sa vie, cherche dans le nu, observé sous toutes ses faces, dans une quantité incroyable de poses et jusqu'en pleine action, le système unique de lignes qui formule tel moment d'un corps avec la plus grande précision, mais aussi la plus grande généralité possible. La grâce ni la poésie apparente ne sont pas ses objets. Paul Valéry.
Alors ici, Gilles Saxic, nous sommes dans la salle des pastels et voici le tub de 1886.
On est complètement dans la peinture. On n'est plus dans le souvenir seulement de la peinture. Et en même temps, il n'a jamais été aussi proche de Poussin et de Titien. C'est ça, et c'est ça qui m'émerveille.
Et en quoi il est proche de Titien ?
Oh, ben, par la puissance rythmique. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas impressionner par ce qu'il peint. Bon, notamment, prenons par exemple le concert champêtre qu'on dit de Titien ou de Giorgione, peu importe, ça n'a aucune importance, à mon avis, il est quand même de Giorgione. Vous avez une construction rythmique, mais il faut attendre à peu près, je ne sais pas, moi, il faut attendre Manet, il faut attendre Degas, pour trouver cette rigueur architectonique de la toile. Ils sont pas dit, il faudrait qu'on soit devant la toile, c'est très très prouvable, ça se voit, ça se désigne. Et là, c'est pareil. Vous voyez, le bras de la femme qui s'appuie dans le tub fait une parallèle magnifique avec la table vue d'en haut. Et c'est là, d'ailleurs, ici, sur ce pastel, c'est là que je rencontre le plus à la fois Picasso et Bonnard. On a vraiment les deux. Et là, au fond, qu'est-ce qui fait qu'un homme, comme Degas, ou Titien, ou Poussin, ou Cézanne, qu'est-ce qu'il fait qu'ils atteignent qu'ils parviennent à ce classicisme? C'est qu'ils ont une lecture du monde de plus en plus riche, c'est-à-dire de plus en plus, à la fois prismatique, rythmique, enfin. Et en réalité, ici, par exemple, vous voyez le dos de la femme, ses fesses, répondent exactement à la forme du tub, et on est dans un cercle qui s'échappe par le bras droit de la femme, vers l'angle en haut à gauche. Voilà. Plus ce mouvement parallèle entre le bras et la table dont je parlais tout à l'heure, et de surcroît, pour accompagner ce cercle, vous avez à droite ces deux éléments, cette théière, cette bouilloire, enfin je ne sais quoi. C'est un pastel, et pour moi c'est une peinture. C'est ça le fond de la question. Il peint tout le temps. Degas est quelqu'un qui peint même quand il dessine.
Le nu rappelle certaines Vénus accroupies du IIIe siècle, par exemple. Le rapprochement a été fait pour ce pastel qui fait partie de la série de femmes se baignant, se coiffant ou se faisant coiffer, qu'il expose à la dernière exposition impressionniste en 1886. Et cette série qui avait été présentée, enfin une partie d'entre eux qui avait été présentée au Grand Palais, montrait de quelle façon les figures s'agençaient les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire avec des mouvements différenciés, un côté presque cinématographique déjà dans la composition. Et d'ailleurs, la vue plongeante est tout à fait originale, surtout pour l'époque, car une grande partie de la composition permet au dos de s'étendre dans toute son ampleur.
Oui, on voit une femme accroupie dans son tub, dans une espèce de grande bassine, et qui est en train de se nettoyer ou de se laver le cou.
Oui, c'est ça, avec une éponge. Et d'ailleurs, la critique de l'époque a été extrêmement virulente contre ces tableaux, et en particulier contre celui-là, en parlant de batracien, à cause de cette position peut-être un peu étrange. Et Degas disait lui-même que, contrairement au nu traditionnel, qui était toujours prévu en fonction du public, donc cherchant plus ou moins un effet, au contraire, ces personnages étaient comme vus à travers le trou de la serrure. Et ce côté intimiste de la scène a probablement effectivement dérangé ses contemporains. Et sa réputation de misogyne est partie de ce type de peinture, essentiellement en 86, très orchestrée par une critique un peu hostile.
Dans le domaine de la photographie, il a fait aussi des nus. Et il en reste un très célèbre, d'autant plus célèbre que ce nu, il lui a donné une pose tout à fait étonnante. C'est une femme couchée sur le côté qui s'essuie le dos.
Le voici.
C'est un des plus beaux nus qui existe en photographie.
Antoine Terrasse.
Certainement, en tout cas c'était l'idée de Henri Cartier-Bresson. Et il y a là un mouvement, une sorte de mouvement en pyramide, d'abord. Le visage caché, les deux dos, et la descente du couvre-lit, du couvre-pied qui sont là, à la sortie de bain, la chaise longue sur laquelle posaient les modèles, et la pose évidemment entièrement choisie par Degas pour montrer l'effort et la tension de l'effort de quelqu'un qui s'essuie. Car c'était aussi le but de Degas, c'était de montrer l'effort, ce qu'on peut appeler le tracé de la tension. Il y a une tension dans cette photographie. Alors l'éclairage, vous l'avez vu, il vient de gauche. Il est remarquablement fait pour souligner cette sorte de pyramide légèrement inversée, légèrement penchée à droite. Et l'ensemble est tout à fait magnifique. C'est un ensemble d'ailleurs dont Degas a fait plusieurs pastels. Il y en a un à côté qui est là, un pastel ou huile, une pose qu'il a aimé voir, regarder, dont il a tenu à faire une photographie. Que la photographie est précédée ou qu'elle est suivie, on ne le sait pas. C'était l'habitude de Degas, mais les deux marchent ensemble, absolument. C'est la même pose, c'est le même endroit, c'est l'atelier, c'est la chaise longue, avec, pour le pastel, la baignoire qu'on voit à gauche. Et puis à droite, justement, là, une sortie de bain, un autre beau tissu, là, la sortie de bain, des modèles.
Alors ça, c'est très curieux, parce qu'avec ces petites danseuses bleues dont le titre est « Danseuses bleues », évidemment, c'est vraiment la course picturale de Degas.
Et Cécile Gilles-Saxy, c'est une œuvre tardive, puisqu'elle est de 1890. Il y a des larges coups de pinceau...
La question de l'exécution, je pense qu'il a dû s'en amuser. Bon, d'une part, chacun sait que Degas avait eu des problèmes ophtalmologiques importants. Mais je crois que c'est pas ça. C'est que petit à petit, il découvre, comme tous les peintres, et ça c'est important, qu'on peut faire les choses, que si on tape juste, on peut faire les choses, pardonnez-moi, n'importe comment. Et c'est-à-dire que c'est le contraire de Seurat. Autant sera accru à son truc,
son système.
À son système, Signac encore plus parce qu'il n'était pas lui mais de Seurat, autant Degas n'y a pas cru. On peut peindre, Manet l'avait prouvé déjà, Picasso après l'a prouvé à l'envi, Bonnard et comment. Mais regardez à quel point, de temps à autre, dans le haut de la toile, il joue sa touche comme ça. Autant, par exemple, dans la danseuse bleue, la principale, c'est de la plat.
C'est un face-à-face avec la toile, directement posant ses touches avec ses pouces sur la toile. Une première ébauche qui l'unifie ensuite et le fond par exemple ce pointillé bleuté, ce sont tout simplement des touches de doigts qu'il a reportées, donc on pourrait presque retrouver les empreintes digitales de Degas dans ce tableau qu'il a fait éclater dans un papillonnement tout à fait étonnant. Et ici, dans ce tableau, il y a une dissociation de la couleur et de la ligne qui est extrêmement caractéristique de ces tableaux tardifs. Par exemple, la composition s'organise autour de cette jambe centrale, un essai de pointe, une jambe rose, qu'il a ensuite cerné par ce trait posé au pinceau, à la marque
bleue, qui est, mais ce trait qui donc limite le mouvement, limite l'étitude, n'est pas strictement, ne coïncide pas exactement avec la couleur. Et donc ça donne un dynamisme, une sorte d'hésitation et de papillonnement tout à fait étonnant. Il s'est probablement inspiré dans ce type de composition, soit il a fait poser plusieurs fois probablement le même modèle dans des attitudes différentes, et aussi il a probablement utilisé les photos, les fameuses plaques dans lesquelles on retrouve des gestes qu'il a absolument fixés et qui lui servent comme un répertoire de formes, qu'il insère, qu'il imbrique. Et donc à ce moment-là, on a l'impression que plus que de véritables modèles en face de lui, c'est son monde intérieur, c'est ses souvenirs, c'est toute son imagination et ses souvenirs qu'on peut étudier dans presque tous ses tableaux.
Dans cet appartement du second étage se trouvait une salle à manger où j'ai dîné assez tristement bien des fois. Degas redoutait l'obstruction et l'inflammation intestinale. Le veau trop pur et le macaroni cuit à l'eau claire que nous servait la vieille Zoé, fort lentement, étaient d'une rigoureuse insipidité. Il fallait consommer ensuite une certaine marmelade d'orange de Dundee que je ne pouvais souffrir, que j'ai fini par supporter et que je crois que je ne déteste plus à cause du souvenir. S'il m'arrive de goûter à présent à cette purée pénétrée de fibres couleur de carotte, je me retrouve assis en face d'un vieil homme affreusement solitaire, livré à de lugubres réflexions, privé par l'état de sa vue du travail qui fut toute sa vie. Paul Valéry.
Ce qu'il faut dire, c'est que le Degas qu'on a laissé, un artiste un peu incertain et méconnu dans les années 1860, devient très vite, et dès le milieu des années 1880, un peintre extrêmement recherché et cher. Les danseuses à la barre, par exemple, qui seront vendues dans ces années-là, dans ces années de la fin, atteindront le plus haut prix jamais atteint par une œuvre contemporaine. Donc c'est un artiste extrêmement glorieux que Degas dans les années 1900. Et c'est un artiste qui, de son vivant, a connu une gloire énorme.
Mais il s'éteint à peu près aveugle et sourd et très seul.
Oui, il s'éteint absent surtout. C'est-à-dire que depuis une date qu'on n'arrive pas à fixer, c'est quelqu'un qui a, je dirais, une santé excellente, effectivement, qui voit très très mal, qui sans doute entend mal, qui n'a plus sa tête, mais qui malgré tout peut marcher, par exemple. Il marche pendant des heures à travers Paris, une sorte de mère aveugle, comme ça, tel que le verra Sacha Guitry. Et puis il y a cette scène très très émouvante, justement, dans le film de Sacha Guitry, Ceux de chez nous. Sacha Guitry, en 1915, donc en pleine guerre, avait décidé de s'attacher aux gloires de la France et était allé voir successivement les grands artistes, les grands personnages de la France d'alors. Et puis il avait décidé d'aller voir Degas. Il n'avait pas été reçu par Degas, qui avait refusé de le voir. Et il se plante donc boulevard de Clichy, en bas du domicile de Degas. Il attend qu'il passe. Et on a dans ce film, justement, tout d'un coup, Sacha Guitry a planté sa caméra sur le boulevard et on voit passer Degas. Et ça, c'est quelque chose d'une image très 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 forte d'un Degas qui semble effectivement absent et qui, en tout cas, depuis plusieurs années maintenant, ne peint plus.
Avec Henri Loirette, président directeur du musée du Louvre, auteur de nombreux ouvrages sur Degas, dont la biographie aux éditions Fayard, et Je voudrais être illustre et inconnu aux éditions Découverte Gallimard, Anne Rocbert, conservateur au Centre de recherche et de restauration des musées de France, auteur de Degas aux éditions Cercle d'art, Anne Pinjot, conservateur général au musée d'Orsay, auteur de Degas sculpture aux éditions de l'Imprimerie nationale et de la Réunion des musées nationaux, Martine Kahan, directeur du service culturel de l'Opéra national de Paris, Antoine Terrasse, auteur de Degas et la photographie aux éditions de Noël, Gilbert Maillère, professeur à l'Opéra national de Paris, et Gilles Saxic, peintre, Galerie Art France à Paris. Texte lu par Garance Clavel et Hervé Briot. Prise de son, Arthur Gerbeau, Patrick Marguerite, Georges Thau. Mixage, Yves Baudry et Éric Boisset. Une émission de Luc Ponette, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Thank you.